Bonsoir, Michel Murator. Nous nous retrouvons pour un alter regard. Mais tout d'abord, très bonne année à tous nos auditeurs à l'écoute d'Agora et puis plein d'alter regard durant cette année 2025. Voilà, ce soir, je vous propose un alter regard sur ce que l'on appelle maintenant les mobilités. On ne dit plus déplacement, mais mobilité. Et puis, on parle quand même beaucoup de mobilité douce. Donc, nous verrons, avec mon invité, ce que recouvre le terme mobilité. Mais quelle est la problématique? La situation actuelle coûte cher à la collectivité, en embouteillage, donc en perte de temps, en pollution, problème de santé publique. Les médecins disent qu'il y a sur la métropole niçoise, j'ai pas d'autres données, mais sur la métropole niçoise, plus de 500 morts anticipées dues à la pollution. Et donc, il se pose la question de quelle politique de mobilité pour demain. Actuellement, la ville est structurée, organisée pour la voiture, et l'étalement urbain favorise la voiture au détriment des transports collectifs. Il y a maintenant un consensus pour affirmer la priorité au développement du transport public et des modes alternatifs à l'automobile. Mais sur le plan pratique, les gains de parts de marché pour l'automobile dans la compétition modale se poursuivent année après année. Et on ne parle pratiquement pas des transports de marchandises. Il y a donc nécessité de définir une politique globale de déplacement urbain avec une bonne intégration du vélo en tant qu'alternative à la voiture particulière, et ça nécessite une redistribution de l'espace au profit du cycliste, du piéton et des transports publics. Ce serait donc au détriment de la voiture individuelle. Et là, il s'agit de choix collectifs, un assentiment individuel, il faut que les citoyens adhèrent, donc, et des priorités financières et d'écologie. Car globalement, on dépense plus pour les routes que pour le social. La technique peut aider, et nous allons donc voir avec mon invité comment les évolutions technologiques, les innovations, peuvent permettre de développer les modalités de demain. Donc, Gabriel Plassat, bonjour. Vous êtes chercheur, moi j'ai dit, à l'ADEME. Donc, vous pouvez présenter peut-être d'abord l'ADEME, et puis après vous et vos missions à l'ADEME.
Très bien. Bonjour, et merci pour l'invitation. Donc, effectivement, je suis ingénieur à l'ADEME. Donc, l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique, dont le but est d'accompagner les différents acteurs de la société dans la transition, les transitions qui sont en cours.
Essentiellement, les collectivités, quand même.
À la fois les collectivités, les élus, mais également les entreprises qui vont produire des solutions, des services. Et puis les citoyens. Également, on a beaucoup de travaux avec le monde de la recherche, donc les laboratoires de recherche, les écoles. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces acteurs que l'on va accompagner dans cette transition par des études, des rapports, du financement. Également la proposition, par exemple, de travaux de prospective ou, comme je le présenterai tout à l'heure, des programmes globaux sur de nouveaux types de véhicules.
Et vous, alors, vos missions, vos fonctions, je ne sais pas comment on dit.
Alors, à l'ADEME, en ce moment, j'ai deux fonctions principales. Donc, je suis l'animateur et l'initiative de ce programme qui s'appelle l'Extrême Défi sur des petits véhicules électriques dont on va parler. Et puis, j'ai une mission transversale sur l'innovation en parallèle. Historiquement, ma formation, c'est une formation d'ingénieur motoriste. Donc, j'ai travaillé d'abord chez un constructeur automobile pendant plusieurs années, puis chez un équipementier automobile, et puis ensuite à l'ADEME, d'abord sur des sujets technologiques liés aux moteurs, aux différents vecteurs énergétiques. Et puis, il y a une quinzaine d'années, sur des réflexions sur une approche plus globale et systémique. Et puis, avec une question qui m'intéresse depuis longtemps, c'est le rôle des acteurs du numérique dans le domaine du transport et comment le numérique peut être une opportunité pour améliorer les solutions de transport face aux problèmes que vous avez évoqués au départ.
Donc quand on dit que la technique peut aider et favoriser ces évolutions vers d'autres modes de mobilité, vous mettez le numérique aussi.
Bien sûr, le numérique peut être un
outil.
Un outil qui va aider. Et on voit bien que la relation qu'on a au smartphone modifie la façon dont les gens se déplacent. En situation, on peut avoir accès à de l'information, on peut éventuellement acheter des titres de transport, on peut mieux savoir où sont les véhicules et comment prendre un bus ou un train grâce à son smartphone. Donc ça peut faciliter. Encore faut-il que tout le monde ait accès à ces informations.
J'allais dire, on a la fracture numérique là.
Hein, qui vient se rajouter. Donc ça, c'est des nouveaux problèmes associés à chaque nouvelle technologie aussi.
Alors, je disais dans la présentation qu'on ne parle plus de déplacement, mais on parle de mobilité. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on est passé de déplacement, jusqu'à maintenant on disait la manière dont on se déplace, et là maintenant on aborde les mobilités. Donc pourquoi on a changé de thème? Donc c'est plus vaste, ça. Voilà, vous pouvez nous expliquer.
Oui, le terme transport, effectivement, ou se déplacer petit à petit remplacé par mobilité, qui traduit plus la notion de service, la notion de système. On a besoin d'un certain nombre de choses pour se déplacer. Se rajoute à ça le fait, par exemple, d'effacer de la mobilité, par exemple le télétravail, peut être vu comme une solution de mobilité, quelque part. C'est-à-dire la démobilité, ou supprimer des ça s'intègre dans les solutions de mobilité, quelque part. Donc, la mobilité, en fait, c'est le rassemblement de quatre grands domaines. Un sujet lié au véhicule. Alors, le véhicule, ça peut être une automobile, un vélo, un bus, ça peut être aussi son propre corps, quand on marche, par exemple. Des infrastructures, on va voir que c'est très important, infrastructures routières, infrastructures énergétiques. De l'énergie. Le quatrième volet, de l'information. On a besoin d'informations pour se déplacer, et là on rejoint le sujet du numérique.
Et on passe plus dans les déplacements, j'allais dire collectifs, que individuels aussi. Si on est sur les outils, tout ça, on s'adresse plus au collectif qu'à l'individuel.
Oui, la mobilité rassemble les deux, le collectif et l'individuel. Dans l'histoire, on est passé alternativement, au départ par que des mobilités individuelles, puis au début du siècle, beaucoup de mobilités collectives, un réseau ferré par exemple dans les Alpes-Maritimes qui était extrêmement développé, malgré une géographie et des montagnes, il y avait des tramways et des trains beaucoup d'endroits, destruction de ces modes de transport pour arriver à l'automobile, à l'autosolisme, donc une personne seule dans sa voiture, qui est la situation majoritaire aujourd'hui, et puis maintenant une volonté de sortir de cette situation en développant le collectif et en développant, comme vous l'avez évoqué, des modes de transport actifs, vélo, marche principalement.
Alors, j'ai lu dans un rapport qui préconisait pour une meilleure connaissance et plus précise, plus complète du poids, donc des mobilités, d'intégrer dans les plans de déplacement urbain tous les modes de déplacement, donc individuels, collectifs semi-collectifs. Donc, ils suggèrent d'intégrer dans les plans de mobilité les taxis, les loueurs de voitures et les transports de biens. Or, actuellement, on n'a absolument pas cette approche-là. Quand on construit des infrastructures, on dit je construis pour la voiture ou je fais une piste cyclable, mais on n'a jamais dans une commune, en construisant des infrastructures, cette approche très globale. Donc ça permettrait un meilleur développement des infrastructures qui répondraient mieux à ces problématiques de mobilité.
Oui, ça traduit le fait que les temporalités ne sont pas les mêmes. Quand on construit des infrastructures, il y a des temporalités très longues, voire même pour des modes de transport que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Rappelons-nous l'arrivée des trottinettes en libre-service, c'est des choses qui n'existaient pas, qui sont arrivées du jour au lendemain dans les villes, et qu'il a fallu gérer. Et donc les infrastructures vont supporter celles qu'on a aujourd'hui et celles qu'on est en train de construire, des modes de transport que l'on ne connaît pas aujourd'hui.
Ça, c'est compliqué.
Oui, mais c'est ça,
perspective,
la posture à avoir, d'avoir plus de plasticité dans l'usage des infrastructures, d'avoir un objectif global qui est quand même de donner plus de place au collectif, de réduire au maximum les mobilités individuelles avec une forte emprise, donc l'automobile seul dans sa voiture. Finalement, de contraindre de plusieurs façons l'automobiliste seul dans sa voiture, qui a décidé d'être seul dans sa voiture. Parce qu'on verra qu'il y a des cas où il y a des gens qui n'ont pas d'autre choix. Ceux qui travaillent tard, ceux qui travaillent, qui habitent loin parce qu'ils n'ont pas le choix, etc. Ces gens-là, il faut déjà, d'abord les connaître et plutôt les aider dans cette transition-là. Et puis ensuite, à donner des incitatifs aux gens qui utilisent les transports collectifs, la marche, le vélo, ou des véhicules extrêmement légers, comme on va le voir.
Et donc, on a l'urbanisme est important, puisque l'étalement urbain qu'on connaît, même si on essaye, mais ça marche pas, hein, on essaye de réduire le zéro artificialisation, personne n'en veut. Donc cet étalement urbain nécessite beaucoup d'infrastructures, mais aussi du coup de la voiture individuelle seule.
Oui, c'est un cercle vicieux, effectivement, où la voiture légitime d'avoir des services le plus loin possible. En gros, la grande distribution est arrivée parce qu'il y a l'automobile.
Oui.
S'il n'y a pas de grande distribution, il n'y a pas d'automobile. Et la grande distribution légitime le fait qu'on a besoin d'une voiture. Et donc, c'est un cercle qui est expansif. Donc ça, il faut le contenir par effectivement des mesures légales, par des textes comme zéro artificialisation nette, etc. Pour contraindre cette expansion et ensuite... beaucoup mieux utiliser les infrastructures qu'on a déjà, beaucoup mieux utiliser l'urbanisme qu'on a déjà mis en place, et plutôt être dans la transformation, dans l'optimisation, pour arrêter l'expansion et l'artificialisation des terrains.
Oui, parce que actuellement, on n'est pas du tout, dans ce schéma-là, quoi. Et c'est compliqué c'est des choix politiques. Et ces choix politiques, ce que je disais en début, c'est aussi une appropriation individuelle, parce que ces choix politiques, les gens comprennent pas, quoi. Ils râlent. Et ça veut dire aussi, parce que quand il y a une urbanisation d'un quartier ou quoi, le politique, il voit quoi? Il voit des impôts fonciers qui vont rentrer, parce qu'il n'y a plus de taxes d'habitation, il y a du foncier. Mais parallèlement, donc il faut une école, il faut des transports en commun. Et c'est là où ça pose problème, parce qu'on n'a pas la masse pour rentabiliser les transports en commun et les ramener tout le territoire, c'est que ça devient compliqué.
Oui, dans tous les cas, il y a un équilibre en termes de densification pour avoir des transports collectifs. Équilibré, il faut un minimum de densification. Effectivement, la densification, c'est pas quelque chose qui naturellement attire l'électeur, le citoyen, même s'il a beaucoup de vertus. Et donc, c'est un équilibre à trouver. Donc, de faire comprendre l'intérêt d'un minimum de densification, qui permet globalement aussi de réduire les coûts, quand même, parce qu'entretenir les routes, ça coûte très cher. Donc l'expansion a aussi un coût social élevé, une difficulté à avoir des services publics dans les zones peu denses, etc. Donc un minimum de densification est pertinent.
Et là, c'est là que les autres modes de déplacement, tels que ceux qu'on verra tout à l'heure, ou bien les transports en commun, mais à la carte, sont une réponse à cette... plutôt, on ne va pas mettre un gros bus partout, on ne va pas mettre...
C'est ça. Plus on a une densification qui se réduit, moins le transport public est pertinent, parce qu'on ne peut pas avoir d'équilibre économique, ça devient beaucoup plus dur. Donc là, il y a toutes les solutions de partage, donc soit partage de du trajet, comme le covoiturage, partage de véhicules avec l'autopartage. Ça se développe même dans les territoires ruraux, l'autopartage.
Oui.
Les bus à la demande, Toutes ces solutions-là sont pertinentes. Et puis, l'utilisation de petits véhicules électriques dont on peut espérer, voilà, dans un futur assez proche, qu'on arrive à avoir des petits véhicules électriques économiques qui offriraient une nouvelle solution de transport pour des territoires à faible densité ou à moyenne densité.
Et qui limiterait du coup la place, le poids de la voiture. Parce que s'il y a une poids, je disais, les embouteillages perdent de temps, la pollution, mais il y a aussi un poids économique pour les ménages, avec la voiture. Donc il faut aussi répondre à ces problématiques-là, parce que les gens qui habitent loin, ils payent moins cher le foncier, mais ils ne se rendent pas compte à ce moment-là qu'ils vont avoir des frais de déplacement beaucoup plus importants.
Tout à fait, oui. Le coût de la voiture est en général un peu sous-estimé par les ménages, de plusieurs milliers d'euros par an. Le coût pour la société, maintenir les infrastructures, la dépendance énergétique, la dépendance aux matières premières. Donc ça touche plein d'aspects de souveraineté, quelque part. Et avoir une solution plus robuste est assez intéressante et importante en ce moment.
Eh bien, nous nous retrouvons après un peu de musique.
Chasing shadows, just enjoying the ride. stop chasing shadows, just enjoy 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 the ride.
Nous nous retrouvons donc avec Gabriel Plassa pour parler de mobilité, de, moi j'avais même dit nouvelle mobilité, donc, et pour, on peut, pour, donc après la musique, pourquoi vous avez choisi ce morceau ? Il nous parle de mobilité.
Oui, ce morceau est plutôt, voilà, joyeux de profiter du chemin. Bon, on verra dans ces nouveaux véhicules, l'aspect ludique, l'aspect plaisir est important. La mobilité, c'est aussi une source de plaisir. C'est, voilà, c'est pas que des contraintes et des problèmes. Il faut que les gens aient envie de changer. Et donc, il faut leur proposer des solutions attirantes, plaisantes. Et donc, les petits véhicules électriques dont on va parler, ces véhicules intermédiaires, le but, c'est que ça soit plutôt joyeux et de prendre plaisir dans le trajet avec ces véhicules.
Que ce ne soit pas une contrainte, je ne change pas, mais sans contrainte. Alors, la loi dont on parle beaucoup, c'est la loi L'Homme, c'est la loi d'orientation des mobilités, qui date de 2019. Donc, je cite, un des objectifs, je cite, c'est de faciliter et encourager le déplacement de nouvelles solutions pour permettre à tous de se déplacer. Donc, moi, j'ai résumé. Par quoi on remplace la voiture et quelle est la place de la voiture si on veut permettre aux autres, les piétons, les vélos, les trottinettes, donc que les autres modes de déplacement prennent aussi une place. Donc vous travaillez sur justement d'autres moyens, outils de déplacement pour remplacer la voiture. On va essayer de cibler. Alors déjà, il y a le vélo. Le vélo qui a pris quand même pas mal d'importance ces derniers temps et qui pose surtout des problèmes de sécurité. Et donc la question, c'est comment on partage l'espace public. On voit fleurir des pistes cyclables, mais on n'a pas... c'est-à-dire qu'on fait au coup par coup, on n'a pas d'itinéraire cyclable. Et donc, ça incite pas... Alors, il y a deux... à prendre le vélo. Donc, d'un côté, la sécurité. On entend les parents, pour aller à l'école, au collège, enfin, les plus petits, non, mais au collège, nos parents, ils allaient en vélo au collège, peut-être nous aussi, moi, non. Mais voilà. Et ils disent, il y a un problème de sécurité. Donc, sur le vélo, on a un problème de sécurité et on a un problème de cirque, de trajet qui n'est pas un bon jalonnement, un bon itinéraire. Donc là, comment on répond sur le vélo ?
Comment on répond ? Si on avait une baguette magique... donc effectivement, il y a une question d'infrastructure qui est très, très claire, très nette. Maintenant, on le sait, les recettes de un système vélo qui fonctionne. Hein, d'abord, c'est un système. Il faut apporter des infrastructures sécurisées, de l'information, des solutions pour réparer son vélo, des solutions pour financer le vélo... Donc, et permettre aux collectivités, voilà, de faire des études, de faire des chemins cyclables, d'avoir une personne en charge du sujet et d'avoir une approche globale et planifiée sur plusieurs années. Donc ces solutions-là, on les connaît. Il y a des territoires qui arrivent à s'en saisir et on voit les bénéfices en fait. Ensuite, tout de suite, les gens se mettent à faire du vélo. Il y a une économie après vis-à-vis des commerces locaux, vis-à-vis de l'emploi local. Qui est aussi lié à ce développement du vélo. Donc voilà, et après, il y a des territoires qui ont plus de mal par des contraintes géographiques, par des décisions politiques. Donc ça, chacun après, fait ses choix.
Et vous commencez par les enfants, puisqu'il y a les mesures là, de savoir comment, je ne sais plus comment ils appellent ça, là, le ministère avait savoir rouler. Donc ça, ça permet d'habituer à partir des enfants à utiliser le vélo, qui peut être la première porte à une réflexion sur un autre mode
en fait,
de mobilité.
Tout, c'est tout en même temps. Il faut effectivement, il y a l'aspect éducatif, savoir rouler, on découvre le vélo, on fait du vélo, mais il faut effectivement développer l'infrastructure adaptée et l'ensemble. Petite histoire, à Montsartou, on a une régie agricole que certains connaissent. Ouais. Cette régie agricole, ça fait des années qu'elle est en place et donc elle fournit des légumes bio aux écoles. Il y a une étude qui a été faite sur plusieurs années sur les conséquences en fait de ce changement d'alimentation auprès des enfants. Première conséquence, quand vous donnez des légumes bio à manger aux enfants, les enfants aiment les légumes. Première conséquence. Mmh. Ensuite, les parents se mettent à faire des légumes. Alors, ce que je raconte là, ça a été observé par des chercheurs sur plusieurs années. Ça, c'est la conséquence, on va dire, c'est logique. Troisième conséquence et troisième effet qui arrive à notre sujet, c'est que plus de parents se mettent à faire du vélo que la moyenne nationale.
Et vous liez ça, donc, en fait, à un autre mode alimentaire qui va permettre, amener à un autre mode de déplacement. Oui.
Cet exemple, il est intéressant parce que, d'abord, il montre que l'entrée, vouloir changer le transport en parlant de transport, il y a d'autres
ça
façons de faire.
Pas. Ça marche
pas. En tout cas, il y a d'autres façons de faire. Oui. Changer la façon dont les enfants mangent peut changer la façon dont les parents se déplacent. Mmh. Donc, si vous voulez que les parents se déplacent à vélo, donnez à manger des légumes bio aux enfants. C'est la conséquence. Changement de mentalité, probablement des parents. Mmh. Si on fait des légumes frais, il faut en acheter souvent. Si on en achète souvent, on en achète moins. Si on en achète moins, c'est peut-être pas la peine d'y aller en voiture. Un vélo suffit. Mmh. C'est ça aussi la réponse. Donc c'est systémique et le citoyen qui est dans cette transition, il faut du temps et peut-être que l'entrée par l'alimentation est aussi intéressante.
Oui, c'est intéressant. Alors le vélo s'est amélioré, disons, en passant au vélo à assistance électrique. Hein, c'est bien assistance électrique, donc c'est une aide quand même pour les personnes qui ont des difficultés, surtout dans nos régions avec une forte déclivité. Donc on voit aussi le développement du vélo électrique. Non, et ce qu'on peut mettre sur le même plan, le vélo à pédale, je dirais, et le vélo électrique par rapport au mode de mobilité.
C'est complémentaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens, pour tout un tas de raisons, qui utiliseront l'électrique. Dans tous les cas, maintenant c'est quantifié, il y a des bénéfices sur la santé également à la pratique du vélo à assistance électrique. Ça permet d'avoir une portée dans un temps donné beaucoup plus grande. Pour des gens qui ne sont pas forcément sportifs, donc de pouvoir faire 10 km aller, 10 km retour en moins d'une demi-heure. Et puis en fait, ça montre que si on regarde les volumes, en fait, c'est finalement le vrai véhicule électrique aujourd'hui, c'est le vélo, en termes de quantité de véhicules vendus et de pratique.
Et alors, l'intérêt aussi, c'est que là, on est dans les mêmes infrastructures. Donc on n'a pas le problème de créer une infrastructure spécifique quand on est sur le vélo électrique. Et là on a vu, j'ai vu récemment en démonstration là, le solaire. Donc on remplace la batterie par un panneau solaire c'est l'avenir ou
c'est intéressant. Pas tout à fait remplacé, il y a quand même une batterie, mais on charge le vélo avec un panneau solaire, donc on n'a plus besoin de le brancher.
Mmh. Ah oui.
Donc ça simplifie la charge, donc dans certains cas d'usage ça peut être un intérêt.
Donc c'est intéressant, c'est comme quand on met des panneaux solaires sur la maison, là on en met sur le vélo.
Ça
simplifie aussi au niveau de l'infra, parce que mettre en charge un vélo, bon, il faut une infrastructure de charge. Enfin, je sais pas, on le branche n'importe où, un vélo électrique.
Un vélo électrique, c'est assez simple. Il suffit de retirer la batterie qui pèse quelques kilos et on la charge chez soi, au bureau. Donc, c'est vraiment pas un problème de charger.
Et donc l'intérêt, c'est l'économie d'énergie.
C'est de pouvoir charger son véhicule avec du soleil uniquement. Oui.
Ça donne pas une autonomie supplémentaire.
Alors, sur un vélo, non. On va voir que sur les véhicules intermédiaires, où on peut en mettre des surfaces plus importantes, là, ça peut apporter, en usage réel, un apport énergétique non négligeable. Pour le vélo, ça reste pour la charge, pour la charge du véhicule, pour des usages pendulaires.
Et on voit se développer les petites voitures sans permis électrique, c'est une réponse aussi. C'est juste ceux qui n'ont pas Bon, si on va au lycée Simone Veil, sur le parking, il n'y a que des petites voitures, enfin 80% des petites voitures comme ça. Ouais. Et les gamins qui n'ont pas l'âge de passer le permis ou qui n'ont pas le permis, c'est une solution de... Mais là, on revient sur du déplacement individuel, alors qu'on a dit qu'on avait intérêt à développer le collectif.
Oui, alors on a deux phénomènes qui se croisent. Ces petits véhicules... ont existé, il y a toujours eu des voitures sans permis. Sauf que là, on passe à des petites voitures électriques qui permettent d'avoir des objets techniques extrêmement simples, avec moins de composants. Le moteur est beaucoup plus simple. Et puis, certains constructeurs proposent des véhicules à moins de 10 000 euros. Donc, on a un tarif qui est nettement plus bas que les véhicules thermiques d'origine des voitures sans permis. Donc on a là une offre qui commence à arriver, liée à l'électrification de l'automobile et liée à l'électrification du vélo, qui amène du coup des composants qu'on n'avait pas il y a 10 ans, des petites batteries, des petits moteurs, des contrôleurs, etc., sur étagère, qui permettent à des nouveaux entrepreneurs de développer des petits véhicules électriques de la catégorie L. C'est une catégorie spécifique qu'on appelle des véhicules intermédiaires. Dans les phénomènes là que vous mentionnez, c'est-à-dire ces véhicules, on les retrouve dans les lycées. Il se trouve que oui, un des premiers acheteurs de ces petits quadricycles légers électriques, ça a été des lycéens dans certains quartiers, certaines régions en France. Alors, on peut dire que c'est critiquable. Parce qu'on voudrait, on aurait bien préféré qu'ils viennent à pied, en vélo ou en transport en public. Sauf que de fait, on observe dans une économie de marché, les gens décident et ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et là, en l'occurrence, d'acheter ces véhicules parce qu'ils en ont les moyens. Et pour moi, c'est à la fois, effectivement, pas forcément souhaitable. Et ça traduit aussi le fait que peut-être que dans ces territoires, l'offre de transport public n'est pas si terrible que ça. Parce que si elle était d'un niveau suffisant, les lycéens seraient restés dans les bus. Sauf que si vous n'avez qu'un bus le matin, qu'un bus le soir, et que le budget du ménage permet d'avoir ce type de véhicule, vous avez ce type de véhicule.
Mais ça, c'est le problème, parce qu'on a tous pris des gamins en stop entre le lycée, Roquefort ou quoi. Enfin, moi, je m'arrête parce que je sais qu'il n'y a pas de bus, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, le problème, c'est... Mais ça rentre dans... On développe un individualisme aussi. Et ça, je trouve ça un peu gênant.
Quoi. Alors, voilà. Mais par contre, ces véhicules et le développement sur lequel on travaille peuvent avoir une multitude d'autres cas d'usage, remplacer l'automobile au quotidien, dans des territoires où il n'y a pas d'offre de transport public, et il n'y en aura probablement jamais parce qu'il y a une densité qui n'est pas assez importante. Et donc là, développer une industrie de petits véhicules électriques, et là on en profite, puisqu'on réinterroge le véhicule, on lui rajoute des caractéristiques finalement qui intéressent aujourd'hui la transition écologique, c'est-à-dire des véhicules réparables, des véhicules à durée de vie très longue, des véhicules à très faible impact et à très faible consommation d'énergie. Et voilà, et donc c'est ça qu'on essaye de développer. C'est des véhicules qui vont être à haute performance environnementale et extrêmement réparables, et donc avec des durées de vie très longues et également des véhicules économiques.
Alors, du coup, ça, c'est les nouveaux véhicules sur lesquels vous travaillez. Au niveau des termes, d'abord, parce qu'on dit Vélis, c'est l'ensemble. Oui. Voilà, expliquez-nous véhicule, un peu tout ça, parce que moi, je dis Vélis, parce que, bon, vous m'avez appris Vélis, mais en fait, ça recouvre des choses différentes, en fait.
Oui, le terme Vélis. Donc, c'est véhicule léger intermédiaire, ça se rapproche du vélo, mais on a mis un I à la place du O. Et le mot intermédiaire sous-entend qu'il se situe entre des vélos électriques, donc ont une définition, et puis l'automobile, qui est donc un segment aussi bien spécifique. Et cette catégorie de véhicules, c'est la catégorie L. Il y a plusieurs véhicules de cette catégorie, de L1 à L7. Les petits quadricycles dont vous avez parlé, électriques, le Citroën Ami, c'est un véhicule L6. quadricycles légers. Il y a des véhicules à trois roues, des tricycles, etc. Et donc, toute cette catégorie de véhicules, il y en a une multitude, se regroupe sous le terme véhicule intermédiaire ou véli.
Ah oui, donc la petite voiture, elle fait partie des véli aussi. Oui. D'accord. Alors, bon, vous êtes venu pour ça, parlez-nous de vos véhicules quand même. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Ça s'adresse à qui d'abord?
Alors, ça s'adresse à une multitude de acheteurs. Ça peut être, comme on l'a commencé à le dire, des particuliers, donc des particuliers, des familles, des ménages, des jeunes ou des moins jeunes. Ça peut être des collectivités qui décident de s'équiper de ces véhicules pour les intégrer dans leur flotte de véhicules municipaux. Ça peut être des entreprises, là aussi, pour faire de la gestion de flotte. Ça peut être un artisan qui peut s'équiper soit d'un vélo cargo, par exemple, soit d'un véhicule intermédiaire. Ça peut être aussi des véhicules plus tard qui seront intégrés dans des flottes en libre service. Donc, on a tous en tête Autolib, qui était un véhicule dédié pour des véhicules en libre service. Et donc là, il y a des constructeurs qui développent, cette fois-ci, des véhicules intermédiaires, donc beaucoup plus légers, beaucoup plus simples, en libre service. On va voir apparaître cette année, l'année prochaine. Et puis, pourquoi pas, des nouvelles offres, par exemple, de tourisme. Avec ces petits véhicules électriques où on pourrait découvrir des territoires en famille avec ces véhicules. Et l'avantage de ces véhicules, c'est que voilà, plus de personnes peuvent les utiliser. Moi, je dis toujours que les gens qui utilisent des vélos, qui restent sur des vélos, parce que c'est finalement un véhicule extrêmement robuste et réparable. Et puis des gens qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas utiliser des vélos, eh bien, qui passent de l'automobile à ce type de véhicule. Et donc, il faut les essayer pour voir si ça correspond à leurs besoins.
Alors, c'est une personne, deux personnes, il y a plusieurs modèles, là.
Exactement. Alors, un, deux, trois, quatre personnes.
On peut aller jusqu'à quatre personnes. Par rapport au vélo, c'est qu'on est abrité, non? Qu'est-ce que c'est
Il y a une protection plus ou moins importante en fonction des véhicules. Il y en a qui décident d'être très proche du vélo, donc il y a peut-être juste une couverture au-dessus avec quelques panneaux solaires. Et puis, là, c'est à la personne avec ses habits de gérer la température et l'imperméable. Et puis, il y a des constructeurs qui vont un peu plus loin avec des fermetures, avec donc un pare-brise, des fermetures sur les côtés. Donc là, on se rapproche de l'automobile où on est un peu plus isolé de l'extérieur. Et donc, ça alourdit aussi le véhicule. Donc voilà, c'est des compromis qui sont faits. Chaque constructeur est en train de chercher son optimum. Et ensuite, ce sont les expérimentations en situation réelle, dans une vingtaine de territoires. Ils vont renvoyer des informations aux constructeurs pour dire, ben voilà, les gens ils sont plutôt intéressés par ce type de véhicule, dans tel cas d'usage. Le fait qu'ils soient ouverts, fermés, ça leur va, ça leur va pas. D'engager des discussions avec les constructeurs pour petit à petit que l'on définisse, que l'on construise voilà, une offre diverse de véhicules pour tous les territoires.
Et là, pour faire toute une filière, quoi, qui réponde à tous les usagers possibles, divers et possibles.
C'est ça, d'avoir une filière industrielle. Donc ça, c'est la partie production d'une offre. Et puis, on a tout un travail avec
Alors,
tous les constructeurs.
Alors, attendez, avant de partir sur l'offre, c'est tout solaire? Tous
non,
sans
non,
solaire
non. Il y en a certains qui ont des panneaux solaires, puis certains qui n'ont pas de panneaux solaires.
Donc c'est comme un vélo à assistance électrique?
Alors, il y a des versions avec du pédalage et une assistance électrique, comme un vélo, 25 km/h comme un vélo, ou 45 km/h en pédalage. Il y en a même certains qui vont beaucoup plus vite, qui vont avoir du pédalage à plus de 100 km/h.
Oula.
Puis vous avez
c'est
des véhicules.
C'est un peu dangereux quand même parce que.
Non, pourquoi ?
Non, c'est stable, c'est.
Oui, il n'y a
pas de problème. Ça va vite avec des petits trucs légers comme ça qui vont très vite, ça inquiète.
Vous avez des motos qui roulent là.
Oui, mais c'est lourd une moto.
Non, mais ça a l'air de 200 kg, voilà.
Ah oui.
et puis vous avez des véhicules sans pédalage au sens du vélo. Par exemple, la Citroën Ami, vous n'avez pas de pédalage, vous avez un véhicule électrique classique. Donc, il y a une variété aussi de de type de propulsion dans ces véhicules aussi.
Et le solaire, en fait, donc c'est le même système que le vélo solaire. C'est le solaire qui, le panneau qui recharge la batterie.
Qui aide à recharger en complément d'une recharge.
Mais quand on pédale, ça recharge la batterie, non? Alors, ça n'existe plus, ça?
Si, vous avez des pédaliers générateurs qui vont fabriquer de l'énergie en pédalant.
Voilà, oui.
Puis vous en consommez quand vous vous déplacez. En général, vous consommez plus d'énergie
qu'on en produit.
Que vous en produisez. Donc, il y a besoin de recharger, comme un vélo, la batterie, sur le réseau, notamment quand il n'y a pas de soleil. S'il y a du soleil, dans certains cas, vous pouvez avoir une partie de la charge avec les panneaux.
D'accord. Alors... moi, une question qu'on n'aborde pas. Vous étiez parti, donc comment faire connaître, quoi vulgariser. Mais il y a un point dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à maintenant et qui est important, c'est tout le déplacement, les mobilités, la mobilité, pour dire, des personnes à mobilité réduite. Donc elles ne veulent pas monter sur un vélo. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on leur propose pour sortir de la voiture qui est équipée? Alors une voiture équipée, ça coûte encore beaucoup, beaucoup plus cher. Déjà, un fauteuil, c'est très cher. Donc comment on répond à cette... Parce que c'est important.
Oui, bien sûr, c'est
important. Et la loi LOM, le site...
Oui, bien sûr, vous avez raison. Là, ces véhicules, c'est une offre voilà, pour les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas utiliser le vélo ou même des personnes qui ne se sentent pas à l'aise sur un vélo... pour commencer, peuvent utiliser ces véhicules qui sont plus stables avec 3 ou 4 roues, en étant éventuellement conducteur ou passager. Voilà, vous êtes beaucoup plus en sécurité que, en tous les cas, que sur un vélo. Puis ensuite, peut-être aller sur un vélo. Mais en tous les cas, voilà, pour les personnes à mobilité réduite, c'est une offre qui est directement utilisable. Donc c'est une cible aussi potentielle des constructeurs.
Oui, parce que du coup, s'il n'y a pas d'adaptation à faire, comme sur les voitures ou quoi, ça, c'est un coût, parce que là, on va venir parler du... Donc comment on vulgarise, qu'est-ce que vous faites pour vulgariser, et puis après, on verra le coût,
alors, ou avant, comme vous voulez. De parler de la vulgarisation, ce que je voulais dire, c'est que les constructeurs, donc, ils sont dans une phase de développement industriel, et le travail qu'on a... avec tous ces constructeurs, c'est de les aider à mutualiser des composants, à partager des composants pour réduire le coût des composants. Et donc, même s'il y a une offre différente, très variée, à l'intérieur des véhicules, on va essayer de réduire la diversité, d'avoir une diversité d'offres avec le minimum de composants différents possibles, pour avoir des prix les plus bas possibles. Après, on va parler de...
Et oui, du coup.
Alors, pour faire connaître ces véhicules intermédiaires...
Mais sur les composants, là, en fait, c'est un des problèmes de toute la filière automobile thermique actuellement, qui dit que sur de l'électrique, il y a besoin de moins de main-d'œuvre, il y a besoin de moins de... Et c'est une des problématiques de la difficulté, dont on parle beaucoup avec Volkswagen, mais il y en a d'autres, actuellement.
Ça, c'est effectivement le problème de l'industrie automobile, et c'est la chance des véhicules intermédiaires. Puisqu'ils sont simples, puisqu'il y a peu de pièces dans ces véhicules... on peut inventer un nouveau système productif. Donc on pourrait avoir un système productif où un garage automobile ou un service technique d'une collectivité va recevoir son véhicule en sous-ensemble et va l'assembler lui-même.
C'est la IKEA de la voiture.
C'est-à-dire des véhicules qui sont conçus pour être assemblés localement, réparés localement. Du coup, si on peut l'assembler, on peut le réparer.
Oui, c'est ça.
On peut le reconditionner, on peut lui permettre d'avoir une durée de vie très longue. Et donc des véhicules qui vont être conçus pour ça. Donc ça, c'est aussi un travail que l'on a en cours. Alors, pour la partie communication, donc on a bien sûr plusieurs réseaux sociaux, plusieurs vidéos, ça on les donnera dans les liens à la suite. Ensuite, on organise des événements un peu partout dans les territoires en France. On a un événement tous les ans. Le dernier était à Laval en décembre, où on montre aussi ces véhicules au grand public, et on les fait essayer. Et puis, également, on s'intéresse au festival, et on est en train de proposer une offre au festival, tous les festivals qu'on a en France, à la fois théâtre, musique, livres, pour faire découvrir ces véhicules à des moments où les citoyens s'y attendent pas. En même temps, de proposer une offre au festival pour aider les festivals à se décarboner, à la fois pour la logistique et pour le transport de personnes. Et puis, pour parler des véhicules, parler de la mobilité, puisque c'est un sujet social.
Il faut y aller au festival. Comment on y va ? Dans sa voiture personnelle, un transport en commun ?
Transport en commun, bien sûr. En général, il y a des offres.
Des navettes qui sont faites, parce que les horaires ne sont pas du tout les horaires des transports en commun.
Et donc, ça, c'est une offre qu'on développe pour intéresser des festivals à parler des véhicules intermédiaires et plus largement parler de la place de l'automobile, en fait, dans la société.
Et d'ailleurs, il y a eu, alors je ne sais plus qui est-ce qui a fait ça, mais il y a toute une brochure sur, dans le cadre des festivals qu'on appelle maintenant éco-responsables, où il y a justement les mobilités. Et donc, dans ce cadre-là, vous pouvez présenter ces mobilités-là.
C'est ça.
Et localement, là, vous avez des choses prévues localement ? Vous avez fait quoi ? Bon, le festival de Mont-Sartou.
On était présent au festival du livre de Mont-Sartou pour faire découvrir ces véhicules, les faire essayer.
Parce qu'on avait fait une présentation à Valbonne, mais c'était pour les élus. Donc l'intérêt, c'est de faire cette présentation pour les citoyens.
Voilà. Alors, la prochaine événement, il y aura à Grenoble, participation à un festival en février.
Mais là, il y avait la fête du parc, non ? Où vous auriez pu...
Et puis, ici, localement, on va voir... Pour l'instant, il n'y a pas d'événement prévu à court terme.
D'accord. Eh bien, nous nous retrouvons après un petit peu de musique encore. Donc Michel Murator, dont nous nous retrouvons avec Gabriel Plassat pour parler de mobilité. Alors pourquoi vous avez choisi ce morceau, je peux vous demander?
Oui, alors ce deuxième morceau est moins positif que le premier. Donc il parle d'un downbound train, c'est donc un train à la dérive. Pour illustrer à la fois le clin d'œil à un mode de transport bien connu, mais quand même une situation qui est globalement pas très satisfaisante au niveau des transports. C'est quand même un secteur qui devient en France le premier poste d'émetteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre, une difficulté à sortir du pétrole, une difficulté à sortir de la dépendance à l'automobile, une souveraineté industrielle plutôt en déclin. Voilà, et donc
les énergies
tableau,
fossiles. Les énergies fossiles.
Oui, c'est ça, une dépendance au pétrole, ce que j'ai dit. Ouais, et donc un tableau qui n'est pas forcément très positif.
Mais on va faire en sorte, avec vos études, de réorienter un peu tout ça. C'est ça l'objectif, c'est d'essayer de... Oui, l'objectif, c'est de réorienter les modes de déplacement de manière à être moins soumis à tous ces impératifs-là. Alors, si on considère que les vélis, bon, ça y est, c'est au point... sur quoi portent les recherches maintenant? Vous avez expliqué trouver des filières et avoir des dispositifs, donc en fait améliorer toujours pour le moment, parce que pour le moment c'est pas grand public encore.
Les véhicules intermédiaires, ouais. Le premier marché des véhicules intermédiaires, les premiers marchés, ça sera plus particulièrement oui, les collectivités, les entreprises de livraison, de logistique. Des véhicules en libre service, donc à travers des entreprises, et puis le marché des particuliers, qui est probablement le marché le plus difficile, parce qu'aujourd'hui très attaché à l'automobile, dans lequel l'imaginaire automobile est encore très présent, même si quand on il y a eu toute une série de reportages qui a été fait par Jérôme Zindi, qui a fait un tour de France en véhicule intermédiaire. Les retours sont très positifs des gens. Ils ont envie d'essayer. En tous les cas, une certaine partie. Donc, c'est déjà de partir à la rencontre des gens qui ont envie de changer leur façon de se déplacer pour leur fournir ces solutions ces nouvelles solutions de mobilité et en profiter pour amener aussi les élus à avoir un questionnement sur la place de l'automobile et sur la répartition des infrastructures. Pour laisser de la place, en fait, au mode de transport plus lent, on pourrait dire, vélo, véhicule intermédiaire, et réduire la place allouée à l'automobile et le financement alloué à l'automobile.
On n'a pas parlé du transport de biens. Or, les camions, c'est une source de pollution énorme, et du coup... moi, j'arrête pas de réclamer une zone logistique à la sortie de l'autoroute et puis après des livraisons en ville avec des petits véhicules. Là, on peut avoir des livraisons.
Ça peut effectivement, les véhicules intermédiaires peuvent être la suite des vélos cargo, des solutions de transport avec un peu plus de capacité. En complément d'espace logistique qui serait fait effectivement dans les villes,
permettrait
de mutualiser les commandes et de les livrer. Et puis après, tout ça est quand même le reflet de quelque part de nous. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des camions, c'est qu'il y a des gens qui commandent des choses, qu'il y a des gens qui achètent. Hein. Et donc, ces camions, ils ne sont pas là par plaisir. Et de la même façon, pour l'automobile, donc à chaque fois, de réinterroger nos propres pratiques, à la fois d'achat, nos propres pratiques de mobilité.
Développer le commerce local au lieu de commander à Amazon, quoi.
Par exemple, les dettes à chaque fois dans... et si j'essayais autrement, je veux dire, aujourd'hui, on peut assez facilement essayer une autre façon de se déplacer. Une fois, deux fois, louer un véhicule électrique, l'essayer. Quand il y aura des véhicules intermédiaires, d'en essayer.
Mais les loueurs de voitures, ils ne sont pas tellement sur des véhicules électriques ou autres, pas encore.
Si parce vous que trouvez des véhicules électriques en location,
il faut le réclamer.
Voilà, d'essayer des solutions alternatives. À chaque fois, c'est la première étape pour sortir de la situation dans laquelle on est.
On fait un point sur l'énergie, donc, parce que l'électricité, bon, on nous parle d'autonomie énergétique avec le nucléaire, moi ça me fait rigoler parce qu'on n'a pas d'uranium, donc je ne sais pas où est l'autonomie, mais bon, voilà, on a l'électricité qui se développe. Est-ce qu'il y a d'autres, bon, quel autre mode d'énergie, le solaire ou quoi, qui permettent de se déplacer, de mobilité là, et de sortir des énergies fossiles aussi, surtout?
Alors, aujourd'hui, la dépendance, elle est très forte. Il y a une utilisation massive d'énergie fossile. Donc, déjà, de réduire la dépendance, pas forcément sortir. On sortira à très long terme, mais à très court terme, on peut se dire déjà de réduire, donc d'électrifier voilà, ce qu'on peut électrifier. Le solaire, c'est quand même sur des parties très marginales aujourd'hui. En tous les cas, des solutions de recharge solaire sur les véhicules. Les véhicules intermédiaires, ça peut fonctionner parce que c'est des véhicules très légers. Et donc, le rapport entre énergie produite et énergie consommée est plutôt intéressant. Dès que vous avez une voiture qui pèse 1,5 tonne ou 2 tonnes, mettre des panneaux solaires sur la voiture, ça n'apporte quasiment rien. Voilà, donc... aller vers des solutions de transport les plus légers possibles. Dans tous les cas, c'est bénéfice d'un point de vue de la consommation d'énergie. Et puis électrifier tout ce qu'on peut électrifier.
Alors, sur ces thématiques, il y a un travail qui est fait avec l'École des mines de Paris, qui est venue d'ailleurs à Sofia et que vous avez accompagné. Vous pouvez nous parler de ce projet ?
Oui, donc l'École des mines, l'antenne de Sofia Antipolis, a récemment... dans le cadre d'une formation spécifique qu'ils ont pour les premières années, qui s'intéresse à l'énergie solaire, ils ont réalisé un stage où ils ont assemblé un véhicule intermédiaire. Donc on a bien sûr parlé de ces véhicules. Ils ont pu assembler un véhicule open source. Donc c'est un véhicule qui est fait en France, qui s'appelle Velio, où vous pouvez commander les composants, voire même fabriquer les composants vous-même et assembler ce véhicule. Il a un toit solaire, donc ils ont pu à la fois faire des mesures, voilà, de la consommation d'énergie produite et consommée, tester le véhicule sur le site de Sofia Antipolis, et puis ce véhicule, ensuite, il va avoir une deuxième vie, c'est qu'il va être fourni à une association locale pour continuer à faire de la promotion des véhicules légers solaires et de faire essayer aux gens ce type de véhicule.
Et le véhicule, il est resté là, alors ?
Là, il est à l'École des Mines et il sera à l'association Choisir le Vélo.
Choisir le Vélo,
qui est une association, voilà, dans l'ouest des Alpes-Maritimes.
Tout à fait, oui. Mais en fait, à l'École des Mines, ils ont une option là, sur tout ce qui est... ce que j'avais fait avec eux, une émission sur la Villotech. Voilà. Alors, maintenant, où on peut voir... des véhicules à l'UC. Bon, la CASA propose des véhicules électriques à l'UC, mais ils pourraient aussi proposer ce type de véhicule. Vous avez des contacts, vous avez... comment ça se passe avec la CASA, quoi. La CASA, communauté d'agglomération, tout le monde connaît, mais c'est elle qui a la compétence mobilité, c'est pour ça que c'est elle, quoi.
Alors, au niveau national, le programme, ce que l'on a fait, c'est qu'on a lancé des appels à manifestation d'intérêt auprès de territoires, pour en sélectionner une vingtaine au final. Et dans ces territoires, on leur a demandé ce qu'ils étaient prêts à faire pour créer des conditions favorables à la circulation de ces véhicules. Et on a choisi donc une vingtaine de territoires. On en a eu plus de 60 qui étaient candidats.
C'est bien qu'il y ait 60 candidats. C'est optimiste pour le devenir de ces filières.
Ils sont intéressés. Oui. Et après, on a vraiment sélectionné les territoires qui étaient... actif, avec voilà, un interlocuteur dédié, avec un travail sur la vitesse, la limitation de vitesse sur la route, sur utiliser eux-mêmes ces véhicules pour leurs propres besoins. Voilà. Et on est dans cette phase-là. On a souhaité limiter le nombre de territoires pour avoir plusieurs véhicules par territoire, et pas un véhicule ici, un véhicule là, mais plusieurs dans chaque territoire. Pour des questions de logistique et puis pour des questions de visibilité et des questions de travaux que pourrait faire la collectivité. Parce qu'il y a plusieurs véhicules, elle va pouvoir faire de l'affichage, faire des petits aménagements, etc. Alors que s'il n'y avait qu'un seul véhicule, elle ne le ferait pas. Et donc, on est dans cette phase-là et on va communiquer et publier des résultats régulièrement sur les expérimentations en cours. Et ensuite, on va augmenter le nombre de véhicules. Et à ce moment-là, on pourra les mettre à disposition d'autres territoires.
Donc déjà, localement, les élus peuvent prendre contact avec vous et l'École des Mines pour aller voir au moins celui ou avec... Je ne sais pas s'il est toujours à l'École des Mines ou s'il est à choisir le vélo, mais ils sont là à côté. On peut déjà commencer par ça, conseiller à nos auditeurs qui sont élus ou qui ont des contacts avec des élus de prendre contact avec vous. Donc on va donner vos coordonnées, comment on vous contacte, comment on a les infos.
Oui. On peut aussi fournir toutes les cartes, parce que par exemple, dans les Alpes de Haute-Provence, il y a un des constructeurs, Aeon Motors, qui fabrique un véhicule à côté de Digne-les-Bains. Mm-hmm. Donc, on peut aussi aller voir un constructeur directement.
Oui. Voilà, alors donner un site qui avait vos coordonnées, comment on peut vous joindre si...
Donc, le site principal, c'est xd.adem.fr, qui est le site de l'Extrême Défi, et ensuite vous trouverez les informations sur ce site.
Merci beaucoup Gabriel. Vous pourrez réentendre Gabriel donc le 4e lundi du mois à 21h. Merci.
Merci beaucoup.